Alors, je me demandais si on ne pouvait pas quand même relier ça avec les fameux plans départementaux d'aide par le logement pour les personnes défavorisées, qui maintenant incluent PDALPD et PDHI, dans la mesure où il y a tout un volet maintenant dans ces documents d'urbanisme-là, dans ces documents, qui visent à lutter contre la précarité énergétique, avec notamment le FSL qui intervient, les services locaux d'intervention qui viennent diagnostiquer sur place, par rapport aussi à ce que vous disiez sur le fait de passer à une politique située. Par exemple, je regardais le PDALHPD de la Drôme, il y a 566 cas de familles qui ont été repérées, avec des interventions à la fois des services locaux, mais aussi des comités locaux qui font des préconisations pour améliorer les choses au niveau du logement. Donc en fait, cette politique située, elle se fait déjà par le biais dans le cadre de ces documents-là, puisque la précarité énergétique est un nouveau volet impulsé dans ces grands documents, qui eux, pour le coup, sont déclinés à l'échelon local, si vous voulez. Voilà, ça c'est ma première chose. La deuxième chose, je me disais, est-ce que ça ne met pas aussi en cause et en compte les pratiques habitantes? Typiquement, est-ce qu'on va continuer longtemps à vivre en plein hiver à 24 degrés? Alors, je comprends bien qu'effectivement, c'est pas pareil suivant les régions de France. Mais on a quand même un confort aujourd'hui thermique qui est peut-être un peu inepte par rapport à la réalité du coût de l'énergie et au fait qu'on est censé aussi réduire l'empreinte écologique. Typiquement aussi, si vous examinez les situations dans le sud de la France, on peut aujourd'hui, à titre individuel, j'en fais l'expérience depuis 4 ans, vivre sans chauffage. C'est tout à fait possible, simplement ça suppose de mettre 3 pulls dans sa maison. Est-ce qu'on est prêt à changer nos pratiques là-dessus et du coup à ne pas considérer que l'énergie va être quelque chose qui va durer comme ça, à ce coût et à ce tarif en plus préférentiel que vous avez bien expliqué.
Il y a toujours plusieurs entrées dans les politiques publiques. Et je pense qu'on n'a pas le temps, mais on pourrait être intarissable sur le millefeuille des politiques sociales. Intarissable sur le millefeuille, qui est à la fois un millefeuille de dispositifs, un millefeuille d'échelle, etc., etc. Moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Il y a des soutiens à la dépense énergétique au niveau local, etc., etc. Mais c'est pas ça le problème. Je crois pas. D'abord, je souhaite que ces politiques soient maintenues. Il n'y a aucun problème, parce que le peu qu'elles font, c'est déjà très bien. Mais je pense que, en tout cas, c'était le sens de mon propos, une politique énergétique qui n'est pas une politique sociale au sens, et c'est absolument pas péjoratif, au sens du millefeuille des politiques sociales, une politique énergétique, elle a l'opportunité, et elle est la seule à pouvoir le faire, d'avoir une vue globale sur un certain nombre de problèmes et de critères, et que c'est sur la base de ce diagnostic que je préconise ensuite des applications situées. Si ces applications situées rentrent en combinaison avec d'autres dispositifs de politique sociale, oui. Mais s'il s'agit d'abandonner une politique énergétique globale pour passer à une politique locale, non. Pourquoi ? Parce que les conditions de production de l'énergie font que, en dépit d'une grande mystification sur la question, les conditions de production de l'énergie ne sont pas locales, elles sont globales. Même si on fait progresser la part des renouvelables dans le mix énergétique, on n'est pas tout à fait prêt à avoir un mix énergétique qui repose sur des boucles de production locales. Attention, ce point est vraiment très important.
Oui, je répondrai à la question sur l'opérage des besoins au niveau et la prise en charge des départements se fait déjà. C'est ce que je voulais dire.
C'est dans le cadre de politique sociale.
De lutte contre la précarité énergétique.
Je crois que j'avais bien compris. Ouais. C'est pas de lutte contre la précarité énergétique. C'est des problèmes qui concernent le problème de paiement de la facture, etc. La politique énergétique est plus ambitieuse que ça. Moi, mon souci, c'est qu'on puisse maintenir, c'est vraiment une préoccupation importante, qu'on puisse maintenir une politique globale de l'énergie depuis la production jusqu'à la lutte contre la pauvreté énergétique, et que ces politiques puissent être coordonnées avec tout ce qui se fait au niveau local, notamment sur l'analyse et le diagnostic des situations de pauvreté. De toute façon, les situations de pauvreté, plus elles sont diagnostiquées de près, plus elles sont visibles. Ce n'est pas ma spécialité, mais enfin, il me semble que Ardev, là-dessus, m'a bien formée. Deuxième aspect. Je pense que si vous avez envie de vivre avec 3-4 pulls, très bien. Il n'y a aucun problème. Moi, ça me va. Moi, c'est 1. Vous, c'est 3. Un autre, ça sera 2. Un autre, ça sera je ne sais pas quoi. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des ménages qui sont en situation de dépenser beaucoup avec 3 pulls. Avec un ressenti dans le logement qui est terriblement de mauvaise qualité, mais qui se traduit aussi par des pathologies. Et donc, encore une fois, on est face à des approches qui peuvent être subjectives, j'ai bien insisté là-dessus, l'énergie s'y prête assez bien, mais je pense qu'il faut faire un effort pour dissocier ce qu'on pense généralement de la consommation d'énergie, de la manière dont l'énergie est produite, et sur le fait qu'on a des ménages qui dépensent beaucoup en n'atteignant pas les conditions minimales de qualité pour une vie familiale normale, les enfants faire les devoirs, faire le repas le soir, pouvoir manger dans des conditions à peu près normales, des conditions thermiques à peu près normales, plus ce qu'il y a dans l'assiette, etc. Voilà. Et donc je pense que dans un pays qui a les moyens de se préoccuper de ça, et la France incontestablement a les moyens de se préoccuper de ça, eh bien, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on contrebalance, on n'oppose pas le nombre de pulls avec le fait de pouvoir vivre dans des conditions thermiques correctes. Voilà.
Je vais pas revenir sur les conditions thermiques correctes, parce que c'est très difficile de subjectivement, mais tu l'as dit.
Non, mais par contre, moi, il y a 19 degrés dans le logement.
Non, mais je suis d'accord. Mais il y a une petite question quand même. Tu as parlé d'impôts. Bon, l'impôt n'est pas payé par tout le monde. Par contre, la facture d'énergie aujourd'hui, on mesure bien que c'est pas le prix de l'énergie ou le coût de l'énergie qui est facturé. C'est les taxes qui s'y ajoutent, qui représente jusqu'à 70 ou 80% quelquefois de la facture, et qui devient vraiment un blocage systématique dans la compréhension du problème. Et donc, y a-t-il aujourd'hui une réponse de ce côté-là? Un, on ne connaît rien des avantages et des plus-values que récupèrent les opérateurs. Deux, on se dit finalement on paie des taxes et on ne paie pas le prix de l'énergie. Non, mais peut-être heureusement. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, on serait en comparaison avec l'Allemagne, je suis d'accord. Mais sauf qu'on a appris à vivre avec une énergie bon marché, le nucléaire est quand même à la source de ce prix, et que deuxièmement, on n'augmente pas apparemment le coût de l'énergie, mais par contre, les taxes, elles ont subi des augmentations conséquentes. C'est un peu le même système que pour l'impôt. On paye des impôts sur des revenus qu'on ne touche pas. On paye des impôts sur le brut et non pas sur le net. Et en termes d'énergie, passer d'un régime de taxe à un régime d'imposition, c'est quand même une drôle de marche. Hein. Mais aujourd'hui, c'est les taxes qui sont dominantes. Ce n'est pas le prix de l'énergie. Quelle réponse à ça? Ceci étant...
Interrompt, vous avez 2 minutes pour répondre.
Ceci étant, le rapport de Jacques Toubon souligne combien le passage du chèque énergie de 2018 a été suivi d'un buzz informatique monstrueux, premièrement. Et deuxièmement, il souligne bien combien les plus précaires sont soumis à l'exemption, parce que c'est eux qui doivent le demander, et par le biais de la dématérialisation.
C'est ça.
Ce qui est terrible. Ce qui est terrible.
Alors, chef, sur prix... Ah ben non, je suis désolée. En économie, un prix, c'est un prix, un tarif, c'est un tarif. Un prix, ça se forme sur un marché avec la rencontre d'une offre et d'une demande. Mmh. C'est pas parce qu'on est néoclassique ou qu'on n'est pas néoclassique, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'un marché, voilà, c'est ça. Rencontre d'une offre et d'une demande, ça fait un prix. Quelle est la qualité du prix, comment se construit le prix, c'est autre chose, mais ça, c'est un marché. L'énergie, c'est pas un prix. C'est pas un prix, c'est un tarif. Pourquoi ? Parce que, alors, bon, on va pas rentrer dans un... Enfin, je sais pas en fait jusqu'où je veux aller pour répondre. Mais en gros, les conditions de production de l'énergie font que l'énergie n'est pas une marchandise, n'est pas un bien comme un autre. Pourquoi ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que, comme l'énergie, comme toutes les industries de réseau, c'est-à-dire les industries qui ont besoin de très grosses infrastructures pour produire, sont des énergies où il n'existe pas le coût marginal. Dans un marché, ce qui permet de décider, c'est le coût marginal. On va égaliser le coût marginal avec le prix, donc c'est l'unité supplémentaire de production qui fait que on est neutre du point de vue des profits et des coûts, et donc on décide de s'arrêter là. On appelle ça un optimum de marché. Dans le cas des industries de réseau, la seule manière d'agir sur le coût marginal, c'est de lever tout contrôle à l'entrée. Plus on aura de consommateurs, et mieux ce sera. Mais du coup, on n'atteindra jamais cette frontière, ce signal prix, d'égalisation entre le prix et le coût marginal. La seule manière d'égaliser les conditions de production dans cette configuration, c'est du subventionnement public. C'est la seule possibilité. Partout, les industries de réseau, et notamment en matière d'énergie, se sont constituées sur la base d'opérateurs historiques, qui la plupart du temps, jusqu'à une période récente, étaient publics, pour cette raison. On ne peut pas avoir un réseau énergétique global, on appelle ça du on-grid, on ne peut pas avoir un réseau énergétique global qui ne soit pas subventionné. À partir de là, et c'est là que se fait le saut hein, dans l'analyse en écho de l'énergie, à partir du moment où les conditions de production ne sont possibles que sur la base d'un subventionnement public, on ne va pas avoir un prix, on va avoir un tarif. Ce tarif, il va économiquement rendre compte d'un certain nombre de choses, des conditions de production, mais heureusement, on ne facture pas les centrales nucléaires, sinon on ne serait pas prêt d'allumer l'électricité. Voilà. Donc, les conditions de production, mais aussi tout ce qui relève rapidement du réseau, de son entretien, et puis, ce que je disais à la fin, la péréquation spatiale. C'est fondamental. Le fait qu'on puisse être n'importe où sur un territoire qui est considéré comme unifié parce que c'est une nation ou je ne sais quoi, et qu'on puisse être parfaitement à égalité où qu'on se trouve du point de vue de l'accès à l'énergie. Ces trois éléments font qu'on n'a pas affaire à un prix, on a affaire à un tarif. Donc, on a, en effet, je pense que c'est très important de le rappeler, hein, merci pour cette intervention, les aspects qui relèvent de la tarification publique et donc de la fiscalité dans le tarif de l'énergie sont très importantes. Mais ce n'est pas parce qu'on a des composantes de type fiscal dans le tarif de l'énergie qu'elles ne sont pas justifiées. Non, voilà. On est d'accord. C'est-à-dire qu'on peut construire des correspondances. Après, ce qu'il faut toujours discuter, toujours dans le cas d'une tarification ou dans le cas d'un prélèvement fiscal, c'est la raison du prélèvement fiscal, la raison du prélèvement dans le tarif, si on raisonne pour l'énergie, l'utilisation qui en est faite et le contrôle. C'est l'article 13 dont il est beaucoup question en ce moment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'impôt, si jamais le besoin est constaté, est juste. Ce qu'il faut avoir avec l'impôt, si le besoin est constaté, c'est que chacun contribue selon ses besoins et qu'ensuite on ait un contrôle de l'utilisation des fonds qui ont été élevés au titre de l'impôt. C'est exactement ça. Ce que je disais dans ma dernière diapo.
L'utilisation des taxes, c'est pareil. Hein.
Ce que je disais dans ma dernière diapo, et c'est mon point de convergence argumenté avec toi, c'est que on a aujourd'hui dans la tarification de l'énergie trois éléments. Je l'ai pas mis la taxe. On a trois éléments. Le TURP, donc celui sur les réseaux, la fin de la péréquation tarifaire et la taxe sur les renouvelables qui sont de la fiscalité qui pèse sur le coût de l'énergie et qui sont liées en fait au quoi ? À l'impossibilité d'avoir un marché concurrentiel. Parce que la concurrence en matière énergétique, ça ne fonctionne pas pour les raisons que je disais tout à l'heure. Donc, on nous fait croire que la concurrence va améliorer l'organisation du secteur énergétique. Ce n'est pas le cas, mais on voit monter dans le tarif de l'énergie des éléments qui prennent en charge ces éléments d'incompétence du marché et qui pèsent très fortement sur le consommateur, étant entendu que ça, ça va directement aux opérateurs. Et ça baisse les coûts des opérateurs. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est non, comme mais ça que je réponds.
Les opérateurs sont quand même des opérateurs qui aujourd'hui gagnent de l'argent sur l'énergie. Alors, mais il ne faut pas le cacher. Ils gagnent de l'argent sur l'énergie. Autant d'argent qui pourrait être redistribué socialement.
Mais c'est le cas de toutes les entreprises.
Ah, mais je suis bien d'accord. Mais l'énergie ne se situe pas à l'extérieur de ce système.
L'un des apports de la fiscalité, d'ailleurs je vais faire un cours de finances publiques, l'un des éléments centraux de la fiscalité, c'est précisément d'organiser une redistribution. Oui, absolument. Bah oui, absolument.
Alors, on va prendre une dernière question courte et une réponse courte. Il y a deux questions, alors très courtes.
Vas-y, Joanne. Non, mais moi, c'est plus des remarques, parce que j'ai fait ma thèse sur la précarité énergétique en socio-anthropologie, et du coup, je suis contente de voir que je rejoins les travaux d'une économiste. Donc, merci pour l'intervention. Je voulais faire quelques remarques sur la question, justement, de la définition des publics, des précaires énergétiques, des ménages. En fait, quand on observe le champ de discussion de la précarité énergétique qui est une arène politique, etc., en fait, ça fait 15 ans qu'on se débat pour savoir qui sont les ménages en précarité énergétique. Et moi, je poserais la question de un peu à qui sert le crime de passer autant de temps à définir les publics. L'ONPE, là, c'est l'Observatoire national de la précarité énergétique, a sorti un dernier rapport pour définir qui sont les précaires énergétiques, etc. Il y en a certains publics qui ont disparu, d'autres qui sont apparus, etc. Donc, bon, bref. Voilà. Pour la petite histoire, par exemple, la Fondation Abbé Pierre a refusé de répondre aux questions qui leur étaient posées sur qui sont les ménages en précarité énergétique, puisqu'un ensemble d'acteurs dans le champ disent que si on s'attache au type de logement que les personnes habitent et à leur situation géographique, notamment, je pense à la question des transports et du périurbain, on pourrait aisément définir les publics en précarité énergétique sans passer par tous ces indicateurs. Donc, c'était juste... voilà. Je voulais juste faire cette remarque qui me paraît assez importante dans le champ. Sur la question du non-recours, j'ai hâte de savoir les taux de non-recours sur le chèque énergie, puisque maintenant il est dématérialisé et qu'il faut faire la demande. Je me rappelle qu'avant 2012, avant qu'on passe aux tarifs sociaux de l'énergie, on était à presque de 50% de taux de non-recours. Et en 2012, on est passé des tarifs première nécessité aux tarifs sociaux de l'énergie. Donc j'aimerais bien, en fait, voilà, là aussi, je pose encore la question de à qui profite le crime du non-recours aux tarifs sociaux de l'énergie, puisque c'est un gain aussi pour la politique publique. Et la dernière chose, c'était sur la question du rapport au confort et aux normes thermiques qui ont été abordées. Oui, je pense qu'effectivement, souvent, les familles se privent et elles ont froid. Et ensuite, d'un point de vue sociologique, anthropologique, quand on fait du terrain auprès des familles en situation de précarité énergétique, des fois, avoir 21, 22 ou 23 degrés dans son logement, c'est aussi une manière d'exister socialement dans une société qui promeut le confort. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse imposer des normes thermiques à des familles en difficulté sur bien d'autres aspects. Voilà, j'en ai fini.
Moi, je contribuerai également à ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai fait une enquête sur justement la consommation d'énergie, et une des catégories qu'on a identifiées, c'était on va dire, ce qu'on pourrait ranger effectivement dans cette catégorie de précaire énergétique, et aux questions qui consistent à dire, mais vous avez par exemple, vous êtes moins équipé que d'autres ménages, tout de suite c'est, oui mais si j'avais les moyens, je serais équipé. Donc du coup, la question de la consommation, elle vient aussi permettre de prendre une forme de place sociale, et le fait de pouvoir utiliser l'énergie au sens, on va dire, commun du terme, sans ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est-à-dire sans se préoccuper d'un choix, c'est aussi, ça fait partie de l'argumentaire. Moi, j'avais une question concernant quelque chose qui me paraît très important, que vous avez précisé tout à l'heure, c'est le fait que cette politique publique venait en rencontrer une autre, celle des marchés de travaux qui rejoignent celle de la réhabilitation du logement. Et moi, je me souviens d'un terme que tu as peut-être rencontré toi aussi, c'est le fameux bouquet de travaux comme étant la solution permettant de résoudre la question de la précarité énergétique. Donc moi, ça m'a toujours fait sourire, parce qu'effectivement, c'est ce que vous avez dit, hein, ça renvoie à une question plutôt de marché et du coup de subventionner des acteurs privés que des ménages. J'aurais voulu avoir un peu plus, si vous aviez regardé la juxtaposition de ces deux formes d'action publique.
Moi, non. Mais je crois que j'ai mis voilà. Ah non, je l'ai pas mis. Mais je peux vous les transférer. C'est Dorothée Charlier, la deuxième ligne, qui a travaillé là-dessus de manière très approfondie. Moi, j'utilise juste le résultat de son travail. Mais elle a tout passé en revue. Donc, la réponse...
Vous auriez d'autres éléments? Vous parlez de résultat de son travail. C'est quoi, en fait? Qu'est-ce qu'elle montre?
Elle est rentrée par la partie de la politique contre la précarité énergétique pour... la rénovation des bâtiments, donc les gains d'amélioration d'efficacité énergétique des bâtiments, et elle a ciblé qui étaient finalement, quels agents finalement bénéficiaient de ces politiques publiques. Et elle montre que ce sont les propriétaires qui ont un droit d'entrée verrou sur l'utilisation de cette partie de la politique publique. Et que finalement, quand elle regarde ce que le propriétaire va retirer, puisqu'il fait un calcul économique pour décider de faire les travaux, quand il va regarder ce qu'il retire de la politique publique concernant son logement, le fait qu'il va pouvoir le louer plus cher, ou qu'il va valoriser son logement, elle le met en comparaison avec ce que font les revenus retirés par les entrepreneurs. Et notamment les entrepreneurs qui sont organisés sur un marché restreint grâce aux certifications. Et elle montre que, en fait, les gains de marché sont du côté des entrepreneurs. Voilà.
Plus de questions? Ah, il y a une dernière question.
Merci. Je voudrais rebondir sur la question de la température qu'on doit avoir à l'intérieur de notre appartement. Moi, je pense que ça dépend beaucoup de notre situation. En Sud, ici, par exemple, si on est dans un appartement et si on est des adultes, on peut se priver du chauffage. Moi aussi, j'en ai fait l'expérience. Mais si c'est dans un ménage avec des enfants, je pense que cela risque d'être très difficile. Et vous l'avez souligné dans l'une des approches unidimensionnelles que vous avez développées, c'est l'indicateur de ressenti. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent? Parce que c'est très important en matière sociologique, le ressenti. Si le ressenti est bon, on n'a pas besoin de chauffer, mais par contre, si le ressenti... est très fort, on doit chauffer l'appartement.
Oui, ce sont des mesures subjectives. Donc, elle le renvoie sur des ressentis, en effet, et c'est plutôt difficile de les
centrer. J'ai expliqué comment on faisait pour les centrer. Donc, on a la loi normale. On enlève ceux qui auront de toute façon toujours froid, ceux qui auront de toute façon toujours chaud. On se centre sur les valeurs centrales. Et ce sont ces ménages-là qui déclarent avoir un problème de ressenti thermique dans l'appartement qui vont être privilégiés. Et ce qu'on voit, c'est que compte tenu de l'homogénéité de leurs conditions en matière de revenus, ce n'est pas un problème d'individu, donc ce n'est pas un problème de ressenti. On objective le ressenti par la qualité du logement.
Merci. Alors, je vous propose d'enchaîner tout de suite sur la...